Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour 2 heures d'informations à partager ensemble dans ce numéro dont n'est pas sorti de l'Europe. Et à la une en ce mercredi 4 avril 2018. Les conflits sociaux qui s'ancrent dans les esprits, les services publics sont-ils menacés? Titre La Croix, une grève peut-on cacher une autre pour Libération? Alors cette question partagée notamment par nos confrères de Sud-Ouest, grève à la SNCF, qu'en disent les usagers? Quel retour sur cette première journée d'hier? Quelle réaction parmi les membres du gouvernement? Quelle réaction dans les services de la SNCF par exemple pour se préparer et tenter d'anticiper le mouvement social? C'est ce que nous expliquera dans quelques instants Alexandre Debré. Bonsoir Flora Vidal.
Bonsoir Simon.
Les autres titres de cette édition de 17h, Flora.
Dans le reste de l'actualité ce soir, Saint-Nazaire qui se lance dans un vaste programme de modernisation et qui entame de nombreux chantiers. Un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences ouvrira ses portes l'an prochain à Nantes. Et puis l'organisation d'un loto national qui pourrait bientôt permettre de rénover un château en Loire-Atlantique. Du côté de nos voisins européens, nous reviendrons sur l'incident diplomatique entre la France et l'Italie après le contrôle d'un migrant effectué par les douaniers français sur le sol italien, avant d'aller faire un tour du côté de la Belgique qui annonçait sa sortie du nucléaire d'ici 2025. Et enfin, au niveau des institutions européennes, Bruxelles intensifie sa lutte envers la contrefaçon. Nous évoquerons aussi les fake news et la responsabilité de la Commission sur cette question, avant de parler dans notre Zoom du fonds d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique.
17h20, notre invité, on parlera ensemble cinéma espagnol, le rappel des titres à la demi. À 17h36, Stéphane Maté nous livrera sa reprise de jour. Enfin, à 17h50, nous ferons le récap de cette première heure. Flora, le près des averses, du vent en rafale, quelques éclaircies, est-ce qu'on doit garder espoir aujourd'hui?
Eh bien écoutez, oui, puisqu'il fait actuellement 14 degrés, même si le temps reste assez nuageux, mais j'ai des bonnes nouvelles pour demain, je vous en parle tout à l'heure. Et puis on évoquera aussi les journées européennes des métiers d'art qui ont lieu actuellement dans toute l'Europe.
Le rendez-vous est pris. Et on ouvre cette édition avec les grèves. Hier, une journée de mobilisation contre le projet de réforme de la SNCF. Voici d'ailleurs les principales réactions à cette journée. Beaucoup de grévistes, n'est-ce pas Alexandre Debré?
Oui, ils étaient au rendez-vous hier. Difficile en revanche de s'accorder sur les chiffres. 34% selon la direction de la SNCF, 60% selon le syndicat Sudrail. Avec autant de grévistes, il faut trouver des solutions alternatives, ce que rappelle Laurent Eisenmann, secrétaire général communication et affaires publiques à la SNCF Mobilité 44.
C'est énorme de communication en amont et c'est ce que l'on a fait depuis la semaine dernière pour inviter l'ensemble des clients et voyageurs à reporter leur voyage lorsque c'est possible puisqu'on prévoyait des niveaux de service très très bas. Et puis on met en place des solutions alternatives et notamment il y a plusieurs initiatives qui ont été prises. Le covoiturage, le télétravail sont des solutions que l'on essaye de promouvoir le plus possible.
Du côté de l'hémicycle, le gouvernement répondait aux députés, parmi eux Édouard Philippe, le Premier ministre défend les droits constitutionnels des grévistes comme des usagers.
Je respecte les grévistes, car le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti. Aucun d'entre nous ici n'accepterait que ce droit de grève ne soit mis en cause. Mais reconnaissez avec moi, monsieur le député, que si les grévistes doivent être respectés, les millions de Français qui veulent aller à leur travail parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils veulent aller travailler, doivent également être respectés. Et je veux dire, monsieur le député, qu'en la matière, j'entends autant les grévistes, qui parfois le disent avec vigueur, que ceux qui n'acceptent pas cette grève, ou plus exactement que ceux qui veulent aller travailler, qui veulent continuer à vivre, à travailler, à bénéficier de leur liberté constitutionnelle d'aller et venir, ceux-là aussi, monsieur le député, ont le droit à notre respect.
Alors Édouard Philippe est attaqué également sur la décision de réformer du gouvernement. Il tempère, c'est le seul moyen de sortir de l'impasse.
Le statu quo dans lequel nous sommes installés n'est pas tenable. Il a été décidé avant cette majorité que l'ouverture à la concurrence serait un fait pour le monde ferroviaire. C'est la raison pour laquelle, monsieur le député, nous nous sommes engagés dans une réforme. Une réforme dont vous dites qu'elle est à minima et dont on nous dit par ailleurs qu'elle serait une opération de casse sans précédent.
Cette impasse concerne l'ouverture à la concurrence. Derrière Macron, Bruxelles, l'Union européenne demande cette ouverture depuis la directive 91-440-CEE, en français directive relative au développement des chemins de fer communautaires. Le principe est simple, séparer la gestion de l'infrastructure ferroviaire et de l'exploitation des services de transport. Nombre de grévistes défendent le service public mis en danger par une concurrence étrangère.
Et puis Alexandre, on va du côté de Saint-Nazaire. Cette fois-ci, pas pour une grève, on va au port de Saint-Nazaire, ce port qui rentre en chantier.
Et oui, travaux travaux nécessaires. Les sites touchés datent de 1870 et de 1930, rappellent nos confrères de West France. Plus précisément, ce sont les entrées maritimes qui vont être rénovées, l'entrée et la porte Joubert. La forme Joubert permet l'accès au port des paquebots. 15 millions d'euros de travaux vont être engagés sur 5 ans. D'ici 2020, le pont du Pertuis devrait aussi être agrandi pour laisser place à de plus grands bateaux. Une fois la rénovation de deux autres accès finie, l'entrée sud sera également rénovée. Le port souhaite maintenir l'accès aux bateaux de deux des trois entrées. Attention, il s'agit bien du port et non des chantiers Ficantieri. Mais alors, sera-t-il lui-même impacté? Contacté par nos soins, le chantier désormais italien explique la bonne intelligence du port. Les chantiers ne seront aucunement perturbés par ces modifications, ajoute la communication des chantiers.
On revient vraiment sur la terre ferme, Flora Vidal, avec un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. Il va ouvrir ses portes l'an prochain.
Oui, la mise en place de ce centre de consultation post-traumatique devrait en fait répondre à un réel besoin, puisque selon l'agence d'urbanisme de la région nantaise, plus de 24 500 femmes seraient victimes de violences physiques ou sexuelles chaque année dans la métropole. La maire de la ville, Johanna Roland, en avait d'ailleurs fait l'une des priorités de son programme électoral en 2014. Accessible et gratuit à tous, ce centre ouvrira ses portes sur l'île de Nantes, rue François Albert. Les victimes et leurs enfants pourront y être accueillis et orientés en fonction de leurs besoins. Différents acteurs seront donc mobilisés, médecins, psychologues, mais aussi conseillers juridiques. Le but de ce centre est bien de mettre en place une assistance et un accompagnement personnalisé, adapté à chacune des situations dans lesquelles se retrouvent ces femmes. Encore en discussion, le projet devrait voir le jour l'an prochain. Et en Europe, d'autres initiatives du même type ont déjà vu le jour. Des dizaines d'exemples sont à mentionner, notamment en Allemagne et en Italie. Et on sait que l'Union européenne reste très active concernant les questions des violences à l'encontre des femmes. Pour cela, elle agit même au-delà de ses frontières. Dans le cadre de l'action extérieure de l'Union européenne, la mission EUPOL COPS mène par exemple depuis 2014 une campagne de sensibilisation auprès des populations palestiniennes contre les violences faites aux femmes. L'initiative s'appelle Leave No One Behind and Violences Against Women and Girls et elle réunit une communauté assez importante sur les réseaux sociaux.
Merci Flora. Parlons patrimoine à présent. Loto National va servir à financer un château en Loire-Atlantique. Christiane Sebailly.
Effectivement, et Stéphane Bern, le célèbre animateur télé et radio qui est à la tête d'une mission pour sauver les vestiges français, va venir en aide au château de La Berrière. Cette propriété située sur le territoire de Barbechat à Divat-sur-Loire et appartenant à la famille de Bacher montre de grands signes de fatigue. En effet, l'aile ouest de la propriété est très abîmée, la grange est protégée par une bâche et les vitraux menacent de se briser. Le dossier monté par la famille et l'association est le seul à avoir été retenu en Loire-Atlantique. Le montant du soutien financier accordé dépendra des résultats du loto du patrimoine organisé mi-septembre. La Française des Jeux aspire à récolter jusqu'à 20 millions d'euros. Début septembre, un jeu à gratter va également être mis en place. Presque 120 projets seront choisis pour bénéficier des recettes obtenues.
Merci beaucoup pour cet éclairage. 17h tout juste passé de 9 minutes. On se retrouve dans quelques instants pour parler d'un scandale diplomatique qui monte, celui entre la France et l'Italie. On en parle dans un petit peu moins de 3 minutes juste après cette pause musicale. À tout de suite.
It's 1 a.m. and I'm home alone, thinking I should pick up the phone. Give a ring, babe, I hope you're there. It's been a long day, we need some time. Just one-on-one with you tonight. Cause all day you've been in my head. So tell me what to say, do you wanna play? Baby, name the place, we can stay. Never go away, waste away the day. From the noon to the midnight moon, we'll set the mood. You do, cause that is amazing, 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 that is amazing. I don't wanna say too much, no one does it better than us, yeah, yeah, cause that is amazing, that is amazing, that is amazing, every time. From the first time we laid eyes, ooh baby, I was hypnotized. Plain fade or the chemicals. But this is real, baby, no tricks. Sometimes
will set the mood. I can't even move. I love what you do, 'cause
Aaron Taos avec Amazing.
Radio Nantes le dit haut et fort, on n'est pas sorti de l'Europe.
Un œil à présent sur l'actualité au sein des 28 pays membres. La France et l'Italie sont au bord de la crise diplomatique, Flora.
Oui, vendredi dernier, 5 agents des douanes françaises descendent d'un TGV Paris-Milan à la gare de Bardonecchia en Italie. Ils suspectent en réalité un passager nigérian de trafic de stupéfiants et souhaitent l'interpeller pour le soumettre à un contrôle. Ils procèdent donc dans un local de la gare italienne pour effectuer une analyse toxicologique. Celle-ci se révèle négative, mais cette intervention fait polémique. D'un côté, les Italiens accusent la France d'avoir violé leur souveraineté. Le ministère italien des Affaires étrangères considère cet acte grave, déconnecté du cadre de collaboration entre États frontaliers. De l'autre, les autorités françaises défendent l'opération des douaniers. Ils auraient agi en toute légalité sous couvert d'un accord de coopération en vigueur entre les deux pays depuis les années 90. Une enquête a été ouverte par le parquet de Turin et Christian Massé, l'ambassadeur de France à Rome, a de son côté été convoqué par le ministère des Affaires étrangères. Il s'agit là d'un véritable incident diplomatique qui vient entacher l'excellente relation existante entre les deux pays. Gérald Darmanin, le ministre français de l'Action et des Comptes publics, aussi en charge des douanes, s'est dit prêt à se rendre en Italie dans les prochains jours pour expliquer auprès des autorités italiennes. Il s'est même excusé hier dans une interview accordée au quotidien italien Il Corriere della Sera, évoquant un malentendu. En attendant sa visite à Rome, l'accord des années 90 a par ailleurs été suspendu. Mais pour les Italiens, cet incident ne passe pas. Ce week-end, la presse italienne s'est d'ailleurs emparée de l'événement. Ce qui s'est passé à Bardonecchia est pour beaucoup d'Italiens révélateur des dysfonctionnements dans la gestion de la crise migratoire.
Eh bien, on passe de l'Italie vers le nord de l'Europe et la Belgique qui s'apprête à quitter le nucléaire en 2025.
Oui, le 30 mars, le gouvernement belge a approuvé un nouveau pacte énergétique. L'objectif, éliminer progressivement l'énergie nucléaire d'ici 2025, car dans le classement des pays qui utilisent le plus le nucléaire dans leur production d'énergie, la Belgique est quatrième, derrière la France, la Slovaquie et l'Ukraine. 40% de l'énergie belge provient en effet du nucléaire. Le pacte énergétique met fin à l'activité des centrales de Doel et de Tihange. Il entraîne aussi la fermeture des 7 réacteurs du pays, l'occasion pour les Belges d'investir davantage dans le développement des énergies renouvelables. Le nouveau plan d'urgence nucléaire du pays prévoit une distribution d'iode dans un rayon de 100 km autour des centrales nucléaires. Cette annonce n'a pas encore provoqué de réaction dans le pays. Néanmoins, c'est plutôt normal puisque les ministres ne voteront cette décision que fin mai. Enfin, si la Belgique tente de quitter l'énergie nucléaire, la Pologne souhaite faire l'inverse et s'apprête à construire son premier réacteur. Mais ce projet demande du temps et de l'argent. C'est pourquoi la première centrale devrait être inaugurée d'ici 2030.
En bref, on vous parlait le mois dernier de nos horloges, de micro-ondes et de fours qui retardaient de plus de 6 minutes. Alexandre, vous avez pour nous une bonne nouvelle.
La faute au Kosovo déjà. Hein. Pour rappel, il utilisait les fréquences hertziennes pour mener des négociations face à la Serbie et à l'ENTSOE, autrement dit l'organisme fédérant les gestionnaires de réseaux électriques européens. Eh bien, ce conflit est enfin réglé. Vous pouvez donc remettre vos horloges à l'heure. Suzanne Niels, porte-parole de l'ENTSOE, espère une solution à plus long terme, certes, mais à savoir une coopération harmonieuse entre la Serbie et le Kosovo, pour sa part, toujours en négociation.
Et on apprend aujourd'hui que l'Union européenne signait des contrats de protection de ses propriétés intellectuelles et industrielles.
Oui, et par là, il faut entendre les brevets, les marques, les dessins et les modèles qui sont des objets d'imitation. Et il n'y a pas que le luxe qui est concerné, des jouets, des produits alimentaires, même des médicaments contrefaits circulent en Europe. Chaque année, l'Union européenne perdrait ainsi 90 milliards d'euros et 800 000 emplois. C'est dans ce contexte que la Commission renforce aujourd'hui les droits européens de propriété intellectuelle et industrielle. Elle a annoncé un projet d'accord avec l'ANAS, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. La région est un haut lieu de contrefaçon avec la Chine et l'Amérique du Sud. Pour Guylaine Kieselkowski, présidente de la CNCPI, la Compagnie Nationale Française des Conseils en Propriété Industrielle, il faut instaurer une culture des droits en propriété. Et l'économie de la contrefaçon condamne pour elle les États concernés à rester des suiveurs. La solution se trouverait dans l'éducation, dans la formation d'office de la propriété intellectuelle. L'objectif à terme, harmoniser les procédures d'obtention et de défense de ce droit.
Et l'Union européenne est accusée de bafouer la liberté d'expression. Dans le viseur, le service de fact-checking, ce service créé en 2017 sur décision du Conseil européen qui a pour mission de vérifier l'exactitude des faits et empêcher la désinformation des Européens. Un organisme a porté plainte contre ce même service le 28 mars dernier. Il s'agit de la Clinique juridique sur l'Union européenne, un organisme formé d'un partenariat entre HEC Paris et la New York University School of Law. Cet organisme dénonce l'ingérence de l'Union européenne dans sa volonté de contrôler des contenus médiatiques. Alberto Alemano, professeur de droit et fiscalité à HEC Paris, alerté par la mise en cause de certains journalistes par les experts du service de vérification des faits, estime en effet que l'Union bafoue la liberté d'expression et le droit à une procédure régulière, même si son action part d'une bonne intention. En contrôlant le travail des journalistes, ce service nuirait, selon lui, à l'exercice de cette profession, pourtant au cœur de la démocratie. Cette question reste très sensible au sein des institutions européennes qui s'attachent pourtant à repousser au maximum les limites de la transparence. À l'issue de la première réunion du groupe d'experts sur les fake news qui se tenait en début d'année, Maria Gabriel, commissaire européenne pour l'économie et la société numérique, rappelait pourtant l'enjeu de la désinformation. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
Même si elles ne sont ni illégales ni nouvelles, les fausses informations se propagent aujourd'hui à un rythme inquiétant. Elles menacent la réputation des médias et le bien-être de nos démocraties. Elles menacent nos valeurs démocratiques. C'est pourquoi nous devons élaborer des mécanismes permettant d'identifier les fausses informations et de limiter leur circulation. Nous devons favoriser la transparence, la diversité, la crédibilité des sources d'informations. Personne n'a l'intention de contraindre les citoyens à croire ou à ne pas croire à une information particulière. Cependant, si nous ne prenons aucune mesure contre les fausses nouvelles au niveau européen, le risque est grand que la situation s'envenime.
Une chose est sûre, cette plainte relance une nouvelle fois la Commission sur sa capacité à protéger les citoyens européens tout en adoptant des mesures contraignantes pour faire face aux fake news. Et aujourd'hui dans notre Zoom, le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique, Paola Blaschke.
Exactement, ce fonds créé en 2015 soutient la stabilité et la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière en Afrique. Une initiative qui propage des grandes ambitions pont dans la conférence de presse lors le sommet de haut niveau à La Valette en novembre 2015. Joseph Muscat, Premier ministre maltais, annonçait.
This is a first step to establish a wider wide-ranging cooperation between Europe and Africa. I'm one of those who believe that we should not look just at the issue of migration on its own, but rather look also at the huge potential that Africa has. And I think that now the action plan shows, maybe for the first time, the commitment of Europe to see the relationship flourish.
Selon l'association Coordination Sud, la situation réelle est différente et prétend qu'il s'agit d'une gouvernance pilotée depuis Bruxelles sans réelle transparence et que la coopération proposée par l'Union européenne ne semble pas aller dans le sens d'un partenariat équilibré, mais bien d'une emprise tentant de s'imposer aux États africains un à un. Le choix des projets ne serait pas transparent. En plus, il y aurait un détournement de l'aide publique au développement et l'auteur de critiquer, mobiliser l'aide au développement dans le cadre cadre d'un fonds qui vise notamment à gouverner les migrations et a des conséquences extrêmement négatives sur le respect du mandat de cette aide. Le FFU n'est pas seulement contraire aux engagements en matière d'efficacité de l'aide, mais surtout inefficace dans les objectifs qui se fixent en matière de gestion des migrations. La coordination sud demande une réécriture de ce fonds.
Merci beaucoup Paola Blaschke. 17h tout juste passé de 20 minutes. Dans quelques instants, nous recevons Marie-Soledad Rodriguez pour nous parler de la question du féminin au Festival du cinéma espagnol. À tout de suite.
Rocomundo vous présente un panorama des musiques indépendantes, pop, rock, folk et électro venant des quatre coins de l'Europe. Et Joli Foutoir est un programme où se télescopent différents genres musicaux, de la chanson à la musique de film et du jazz au classique. Retrouvez en alternance Rocomundo et Joli Foutoir tous les jeudis de 21h à 22h sur le 101.3 FM et sur le www.eradionantes.eu.
Eh bien, il est l'heure de se pencher vers notre invité local du soir en compagnie de Marion Gauthier.
Marie-Soledad Rodriguez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous intervenez deux fois lors du Festival du cinéma espagnol qui a commencé à Nantes le 28 mars et s'achèvera le 8 avril. Vous coordonnez notamment une rencontre jeudi 5 avril autour du thème « Filmer au féminin en Espagne ». Pourquoi ce thème ? Est-ce que le féminin a une place particulière dans le cinéma espagnol ?
Alors, les femmes cinéastes, en fait, souffrent d'un manque de visibilité dans le cinéma espagnol et il semble important de parler, justement, et de leurs œuvres et de cette problématique. Alors, c'est une problématique dont elles se sont elles-mêmes saisies il y a une dizaine d'années en créant une association qui s'appelle l'association CIMA. Qui regroupe des femmes à la fois réalisatrices, scénaristes, des actrices, qui ont pour but justement de rendre plus visible le cinéma fait par les femmes et aussi d'influer sur le milieu cinématographique afin qu'ils prennent conscience en fait de la discrimination dont elles souffrent. Donc il est important que les festivals de cinéma qui ne sont pas consacrés aux femmes, présentent des films de femmes, et aussi que finalement, on comprenne un petit peu ce qui se passe et que leurs noms finissent par être connus pour qu'on ait envie d'aller voir leurs films.
Alors justement, le festival met à l'honneur une réalisatrice, Isabelle Coixet. Quel rôle endosse-t-elle pour le festival et plus généralement pour le cinéma espagnol ?
Isabelle Coixet est la réalisatrice espagnole la plus connue au niveau international. Tout d'abord parce qu'elle a réalisé un certain nombre de films en dehors d'Espagne et en particulier donc aux États-Unis. Beaucoup de ses films sont tournés en langue anglaise, ce qui fait que elle peut avoir donc une bonne réception en dehors de l'Espagne. Par ailleurs, donc c'est une réalisatrice maintenant qui a plus d'une entre 20 et 30 ans, on va dire, d'activité, qui a réalisé plus d'une dizaine de films et dont les œuvres sont des œuvres qui sont reconnues également artistiquement. C'est un auteur, c'est quelqu'un qui évolue de film en film, qui se renouvelle, qui propose en fait des recherches esthétiques sur la construction de ces films, sur les voies narratives. Donc on a là la représentante en fait d'un cinéma féminin d'auteur. Donc une figure très importante en Espagne aussi parce que Isabelle Coixet est également une citoyenne et elle utilise le cinéma comme un moyen d'évoquer, de présenter donc certaines problématiques d'ordre social ou politique, et cette fois-ci plus particulièrement dans des documentaires, même si on retrouve aussi cette sensibilité dans certains de ces films de fiction.
Alors justement, vous dites que Isabelle Coixet est une citoyenne. Dans la présentation du festival que vous avez rédigé sur la réalisatrice, vous la qualifiez d'engagée. Est-ce que selon vous, le cinéma devrait être citoyen ?
Alors le cinéma peut être citoyen, mais il n'a pas vocation à être uniquement citoyen. On va dire que c'est quand même un art, c'est aussi depuis ses origines un moyen de divertissement. Mais évidemment, le cinéma, je crois, a cette vocation qui est de nous faire penser, de nous amener à réfléchir en regardant les histoires qui sont racontées par d'autres, mais qui nous amènent aussi à prendre en compte peut-être des réalités soit ignorées, soit que nous n'avions pas regardées de la même façon.
Le festival met donc à l'honneur une réalisatrice engagée, citoyenne. On ne peut pas ne pas évoquer l'affaire Weinstein et les retentissements dans le monde du cinéma. Qu'est-ce que cela dit de la position du festival sur ce sujet des femmes dans le cinéma ?
Alors, il m'est difficile de parler au nom du festival. Ce que je peux dire, c'est que, en effet, en invitant Isabelle Coixet, en présentant une rétrospective de son œuvre, le festival montre clairement que pour Nantes, la réalisation des films de femmes est quelque chose d'important. Alors, Isabelle Coixet a reçu pour son dernier film The Bookshop, donc la librairie, 3 Goya, des prix très importants de surcroît, meilleur film, meilleure mise en scène, meilleur scénario adapté. Lors de cette cérémonie, elle a fait partie des femmes réalisatrices, actrices, qui ont revendiqué donc une plus grande place faite aux femmes et aussi qui ont dénoncé les conditions de travail parfois faites aux femmes et le harcèlement donc dans un milieu où il peut se produire comme dans d'autres milieux.
Merci Marie-Soledad Rodriguez d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup Marion Gauthier pour cet entretien. Il est tout juste 17h passé de 27 minutes. Nous allons marquer une pause musicale. On se retrouve juste après pour le rappel des titres et la chronique européenne. À tout de suite. Un Get You Some, c'était Get Beast à l'instant sur le 100.3 FM de Radio Nantes. Et voici à 17h30 le rappel des titres. Le mouvement s'annonce dur. Nous tiendrons le temps qu'il faudra à assurer Yick Meyer, le porte-parole de Sudrail, comme l'avait anticipé la SNCF. Le trafic a été très perturbé hier et aujourd'hui. Premier et deuxième jour d'une grève au long cours des cheminots. Ces derniers contestent la réforme du rail et du gouvernement et entament donc une grève tournante avec 2 jours de mobilisation sur 5 étalés sur 3 mois. 4 œufs rares ont disparu sur le site de l'Assemblée nationale, annoncé la présidence de l'Assemblée confirmant une information signée par le canard gêné. Les œuvres étaient accrochées au mur des bureaux, précise la présidence, et les recherches menées jusqu'à présent n'ont pas permis de les localiser. Il s'agit d'une œuvre de Takis qui appartient au Fonds National d'Art Contemporain, un tableau d'Hervé Télémaque, un autre de Richard Texier, une gravure d'un auteur inconnu, ces 3 dernières pièces appartenant à l'Assemblée. La Ligue des Femmes du Congrès National Africain, l'organisation féminine, l'ANC, a organisé en début d'après-midi une marche en hommage à son ancienne dirigeante, Winnie Mandela, figure avec son ancien mari Nelson Mandela de la lutte contre l'apartheid et la ségrégation raciale. Winnie Mandela est décédé, c'était le 2 avril dernier, à l'âge de 81 ans, à Johannesburg. Un deuil national de 10 jours a été décrété. Enfin, pour terminer, ça y est, on en est sûr, l'homme de Néandertal avait bel et bien un gros nez. Depuis longtemps, sa morphologie faisait débat chez les scientifiques. Une équipe internationale de chercheurs a utilisé des modèles 3D de crânes de Néandertaliens, d'Homo sapiens et leurs supposés ancêtres communs, l'Homo Indelsbirnixis. Résultat, un nez saillant et de larges sinus pour humidifier l'air froid et sec qu'il pouvait donc respirer en grande quantité. Voilà pour le rappel des titres. Tout juste 17h passées de 32 minutes. Je vous invite à présent à aller du côté de notre chronique européenne. La chronique européenne du jour, elle est en compagnie de Quentin Dickinson. Quentin Dickinson qui revient pour nous, qui balaye pour nous comme tous les jours les grands sujets de l'actualité européenne.
La chronique européenne.
Si vous êtes abonné à une plateforme numérique, vous pouvez désormais profiter de votre abonnement dans les autres pays européens, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est entré en vigueur dimanche dernier et une personne qui a payé un abonnement pour des contenus numériques dispose de ce que l'on appelle la portabilité. Si l'abonné voyage à travers l'Union européenne ou s'il prend des vacances dans le pays voisin, le temps du séjour, il peut écouter de la musique, suivre un match, télécharger des livres électroniques ou des jeux, exactement comme il le fait chez lui. C'est valable pour les services payants, vendus par MyCanal, Deezer, Netflix, Spotify, toutes les plateformes qui proposent des programmes contre abonnement numérique. Mais les fournisseurs de contenus gratuits peuvent aussi appliquer cette règle. Depuis juin 2017, il n'y a plus de frais lorsqu'on utilise son téléphone portable d'un pays à l'autre. Après un accord conclu avec les opérateurs européens, les frais d'itinérance ont été peu à peu supprimés. Eh bien, on fait maintenant la même chose avec les abonnements numériques. Tout cela répond à un projet lancé en 2015 de marché unique numérique. L'objectif est de rassembler les 28 marchés nationaux qui sont actuellement cloisonnés. C'est un véritable chantier. Il concerne le commerce en ligne, la régulation des plateformes Internet et l'harmonisation des droits d'auteur sur les œuvres audiovisuelles, ce qui va prendre du temps. Combien de personnes profitent actuellement de la portabilité ? Eh bien, selon les calculs de la Commission européenne, 29 millions de personnes abonnées à des contenus numériques peuvent déjà l'utiliser, soit environ 6% des consommateurs européens. Mais ce chiffre pourrait atteindre 72 millions de personnes d'ici à 2020, dans moins de 2 ans.
C'était la chronique européenne du jour, 17h34. Voici à présent notre trafic, notre infotrafic, nos conditions de circulation. Et elles sont bien évidemment en votre compagnie, Rislaine Sebaï. Rislaine, qu'est-ce que vous nous annoncez pour la circulation à 17h34?
Eh bien écoutez, le trafic sera plutôt fluide. Quelques bouchons près de la porte d'Orvault sur la A844. Prudence car des travaux sont en cours. Des bouchons également près de la porte de la Chapelle. Et quelques embouteillages qui perturbent aussi la circulation entre la porte d'Amor et la porte de l'estuaire. Donc c'est tout pour le point trafic, hein. Ça s'est largement calmé depuis hier.
C'est une bonne nouvelle.
Donc maintenant, direction la capitale, une nouvelle attraction vient de voir le jour à Paris. Elle fera le bonheur des touristes et de ses habitants. Son nom, Flyview Paris, elle permet de survoler la ville en jetpack. L'avant-première a eu lieu samedi 31 mars. L'attraction est disponible dans une sorte d'aérogare de 1000 mètres carrés. Elle permet de façon virtuelle de survoler les plus beaux monuments parisiens. Alors imaginez-vous dans le hall d'embarquement d'un aéroport, vous achetez votre billet, vous attendez votre vol. D'ailleurs, il y a même un écran écran pour pouvoir consulter les prochains départs. Vous avez le droit à des consignes de sécurité. Puis, une fois installé, on vous place un casque de réalité virtuelle sur la tête avec deux écouteurs. Vous bouclez votre ceinture et vous êtes parti pour le décollage. Pendant que vous êtes assis, vous avez le droit à une vidéo réalisée grâce à un drone qui vous permet de voir ce que la caméra filme au-dessus de Paris, vous faisant passer par la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ou encore la Seine. Si vous voulez tenter l'expérience, rendez-vous chez Flyview, tout près de l'Opéra Garnier, où pas moins de 50 jetpacks à la façon Iron Man vous attendent.
Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Rislane. Il est l'heure pour nous de rejoindre tout de suite notre édito, comme tous les mercredis. Notre édito, il est signé par notre chroniqueur Erwan Quignot. Voici donc l'édito du jour d'Echo of Europe. C'était l'édito, bien évidemment, diffusé ce matin, que vous avez pu entendre sur l'antenne de Radio Nantes.
Echo of Europe.
L'édito du jour.
Editorial of the day.
Et l'éditorial.
L'édito du jour.
Et oui, messieurs, dames, car c'est déjà le 22e épisode d'Europe is Coming. C'est aux Européens qu'il revient de sauver le football. C'est l'affirmation du jour. Bonjour, Erwan Quignot.
Bonjour Simon. Oui, le football, c'est d'abord une histoire européenne, d'abord anglaise pour être honnête, codifiée par les Britanniques à la fin du 19e siècle. Il se propage ensuite aux quatre coins de l'Europe. C'est notre jeu, notre sport, presque une religion. Il fait intégralement partie de notre patrimoine. Et nous l'avons partagé avec la planète entière. On estimait ainsi en 2006 qu'il était pratiqué par environ 264 millions de joueurs à travers le monde. C'est considérable. Le football possède le statut de sport numéro un dans la majorité des pays. Certains continents comme l'Europe, mais aussi l'Afrique, l'Amérique du Sud sont même presque entièrement dominés par cette discipline.
Mais alors Erwan, en quoi le foot serait-il menacé ?
Par le recours à la vidéo que tous veulent imposer tôt ou tard. Le Mondial 2018 qui se tiendra du 14 juin au 15 juillet sera le premier de l'histoire où les arbitres pourront avoir recours à l'assistance vidéo. Telle est la sentence prise par la Fédération internationale du football, la dénommée FIFA, qui promet un football plus transparent et juste. Cela a été approuvé, décidé, nous sommes bien sûr très contents de cette décision, a déclaré le président Gianni Infantino. De quoi nous faire regretter amèrement l'éviction de Michel Platini des instances du football international. Le Français était garant de l'universalité du football et le défenseur acharné de l'humain, du libre arbitre, de l'homme en noir.
Bon, alors j'entends tout ce que vous nous dites, Erwan, mais la vidéo aujourd'hui, elle est partout dans la société moderne. Elle restera de plus en plus encadrée d'ailleurs dans le football.
C'est vrai, le recours à la vidéo, la VAR, pour les experts, portera uniquement sur quatre cas. Valider ou refuser un but, attribuer ou non un carton rouge, analyser une action pouvant valoir pénalty et corriger une erreur d'identification d'un joueur sanctionné. Voici pour les textes. Ce n'est pas possible qu'en 2018, tout le monde, dans le stade ou chez lui, sache en quelques secondes si l'arbitre a commis une grave erreur et que l'arbitre ne le sache pas, non pas parce qu'il ne veut pas savoir, mais parce que nous lui interdisons de le faire, a plaidé Infantino, fervent partisan de l'arbitrage vidéo, après avoir longtemps été sceptique, rappelle l'AFP. En réalité, cela peut tuer le foot, du moins celui dont nous avons hérité. L'attaquant colombien de Monaco, Falcao, le regrettait amèrement à l'issue de sa finale perdue en Coupe de la Ligue la semaine dernière contre le PSG. Nous avons perdu 10 minutes sur deux situations. Surtout, ce n'est pas clair, même après les images. Il a raison. Le football, c'est du rythme. Ce sont des relances, des contre-attaques et des effets de surprise. Le recours à la vidéo va le saccader, le ralentir. À mon sens, la comparaison avec le rugby où l'usage de la vidéo existe depuis le début des années 2000 ne tient pas. Les temps morts, ils sont réguliers. Entre chaque séquence, le rugbyman reprend son souffle, s'hydrate et repart au combat. La philosophie de jeu n'est pas la même. Qui plus est, il y a des règles et l'esprit des règles dans le football. La règle, stricto sensu, c'est sans doute que Falcao était bien en jeu samedi dernier. Mais l'esprit de la règle, c'était que cela se jouait à un cheveu. La prime au doute devait bien revenir à l'attaquant monégasque.
Mais alors, de nombreux experts et dirigeants du football, ils vantent la fin des injustices. Est-ce qu'au fond, Erwan, on ne peut pas considérer que ça soit un argument valable ?
Mais la fin des injustices, pour les uns, les professionnels, là où l'argent coule à flot, mais quid des autres, de tous les autres. C'est en réalité un football à deux vitesses qui se met en place, un football différent pour les millions d'amateurs. L'injustice fait partie du football. Dans toutes les écoles de foot, on en fait même son apprentissage. C'est une école de la vie. L'apprentissage de la frustration, de l'aléatoire, du respect de l'arbitre, de ses décisions, à partir du moment où elles sont impartiales. C'était bien ainsi. Nous n'aurions jamais dû tolérer et accepter les insultes systématiques et vulgaires contre les valeureux arbitres dans nos stades. Ce sont eux les derniers amoureux du jeu et il faut justement les défendre et les mettre à l'honneur. La vidéo dans le football, c'est l'entrée de l'intelligence artificielle, elle aussi partiale, mais plus froide et déshumanisée. Malheureusement, le processus semble lancé et inéluctable. Après son application lors du prochain mondial, l'assistance vidéo sera implantée peu à peu dans nos compétitions nationales et européennes dès la saison prochaine. Pas certain que le football y gagne, ni la société en général.
Merci beaucoup Erwan, on vous retrouve la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.
À la semaine prochaine.
1, 2, 3, 4, 5.
The European cover of the day.
La reprise européenne du jour.
Bonsoir Stéphane Maté.
Bonsoir Simon, bonsoir tout le monde.
Stéphane, ce soir c'est Soundgarden que vous avez choisi de nous faire entendre avec ce titre Black Hole Sun.
Exactement, avec le titre le plus connu de Soundgarden s'il en est, puisque ce titre qui nous ramène au mois de mai 94, date de sortie de ce titre en single, qui était extrait de leur album Super Unknown, sorti lui aussi en 94, un titre qu'ils ont écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires.
Rien que ça.
Rien que ça, voilà. Donc c'est vraiment, oui, la chanson la plus connue du groupe. Une chanson écrite par Chris Cornell, pardon. Voilà, qui était donc le chanteur de Soundgarden. Soundgarden, un groupe phare de ce qu'on appelait la scène grunge. Hein, alors même si ce titre-là est, on peut le dire, une sorte de slow qui a inondé les dance floors de l'été 94, hein, jusqu'à toutes les soirées disco des campings de la côte vendéenne, mais on entendait quand même Soundgarden pour se chauffer sur la piste. Soundgarden, oui, voilà, un groupe américain originaire de Seattle dans l'état de Washington, et qui est donc vraiment un groupe qui vient de toute cette scène grunge dont on appelait le Big Four de Seattle, puisque quand même de Seattle arrivait, bon, le plus connu c'était Nirvana, bien sûr.
Bien sûr.
Mais de Seattle nous avions donc aussi Soundgarden, mais aussi Alice in Chains et aussi Pearl Jam. Voilà, donc c'était un peu vraiment la ville phare de toute cette scène grunge, marquée en particulier par ces quatre groupes. Évidemment Nirvana ne sont plus là, mais c'est marrant, voilà, Pearl Jam, c'est marrant, on retrouve ces groupes qui reviennent sur devant la scène. Alors Pearl Jam n'a jamais plus ou moins arrêté, mais voilà, ils viennent d'annoncer des dates sur des festivals d'été cette année. Alice in Chains, ils sont venus aussi, on les a vus, je crois même qu'ils sont au Hellfest cette année. Et puis Soundgarden était revenu, puisque Soundgarden, qui s'était formé à l'origine quand même en 1984, voilà, donc à l'initiative de Chris Cornell, et guitariste, bassiste et d'un batteur. On va dire que toute leur carrière, c'est vraiment le pic de reconnaissance s'est fait justement au moment de la sortie de ce titre et de cet album Super Nono. Et puis le groupe s'était séparé en 97, et comme souvent, après quand même que le chanteur ait participé à un autre groupe, un Audioslave, qui a pas mal fait parler de lui. C'était un groupe qu'il avait monté avec des membres de Rage Against the Machine. Et puis en 2010, il relance la machine Soundgarden, avec même un nouvel album qui était sorti en 2012. On les a vus, ils avaient joué au Hellfest il y a 2 ans, et malheureusement l'aventure s'est arrêtée puisque Chris Cornell est décédé l'année dernière, mettant fin donc à l'aventure de ce groupe Soundgarden.
Alors Stéphane, ce soir notre cover du soir, elle est signée par des Français, il s'agit de Zebra.
C'est même un Français, puisque c'est DJ Zebra, pour ceux qui le connaissent, qui est à... sorte de touche à tout, auteur, compositeur, DJ, musicien, producteur, remixeur, qui a même aussi qui s'est lancé même aussi dans, en tant que comédien. Alors pour ceux qui se rappellent, tout début, même période, hein, 80, pourtant la même période que ce titre, il était dans un groupe qui s'appelait Billy the Kick et les Gamins en Folie. Si je vous dis mangez-moi,
ah oui,
mangez-moi,
bien
ah ben
sûr.
Voilà, hein, à la gloire des champignons qui font qui font partir. Et donc il était originaire de, il était dans cette formation donc originaire de Rennes à la base. Il était dans d'autres groupes après avec des noms aussi rigolos, hein, les Ragamins ou demain les Poulpes, voilà. Et puis c'est quelqu'un surtout qui a une énorme histoire avec la radio. À l'époque il était sur Canal B, la radio associative rennaise historique. Puis il devient DJ Zebra à la suite d'une programmation au Transmusical de Rennes, et derrière il va se lancer dans un de ce qu'on appelle les bootlegs. Pour ceux qui se rappellent, ça a marché pendant assez longtemps, de début des années 2000, où on s'amusait à prendre par exemple deux chansons qu'on mélangeait avec, par exemple, voilà, on mettait la voix d'un artiste sur l'instrument sur l'instrumental d'un autre morceau connu, et c'est devenu le spécialiste français de ça, des bootlegs. Il s'est retrouvé donc à mixer un peu partout. On l'a retrouvé après alors sur Oubli FM, sur France Inter, sur Virgin Radio, sur le Move, même à la télé, voilà,
il avait une émission.
Voilà, et quelqu'un qui continue aujourd'hui. Et puis, il a aussi fait des albums. Et il avait sorti un album, Rock and Soul Radio, sous le nom de Zebra en 2010. On y retrouvait deux reprises, une de Depeche Mode, Enjoy the Silence, et donc celle-ci,
Black Olsen.
De Soundgarden. À noter même qu'en 2012, il avait aussi, on se la fera peut-être un jour, parce que il avait sorti un album après qui s'appelait Zebra et le Bagad Carrez, donc un vrai Bagad breton, avec tout un album, et là-dedans, il y avait une reprise du Right Here, Right Now de Fatboy Slim, en version Fest Nose. Faudra que, ouais, qu'on se la fasse, parce que c'était quand même...
Je suis curieux de voir ça.
Ouais, on se la fera bientôt. Mais dans les médias, ouais, on va s'écouter quand même cette reprise de Soundgarden par Zebra.
On la découvre tout de suite. À mardi, Stéphane.
Bon week-end.
Bon week-end.
Black hole sun, won't you come and wash away? till you all just disappear. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come?
Et bien voilà pour cette cover signée Stéphane Maté. Rendez-vous demain, même heure, même lieu.
Radio Nantes le dit haut et fort, on n'est pas sorti de l'Europe.
Et à 17h51, on va jeter un œil sur nos conditions météorologiques. On en parlait en début d'heure. Floral, l'après-midi n'a pas été fantastique. Bien au contraire, plutôt un temps gris aujourd'hui dans l'ensemble. Alors Flora, vous allez pouvoir nous dire, est-ce que oui ou non, on a une chance de pouvoir espérer voir le soleil pointer le bout de son nez et endiguer les dépressions qui sont en train de naître, Flora?
Oui, alors j'ai des bonnes prévisions pour demain. Pour l'instant, on a eu un temps plutôt gris aujourd'hui. Ça va se poursuivre dans la soirée. Bonne nouvelle, demain on attend le retour du soleil et ça pour toute la journée. À noter tout de même quelques passages nuageux dans l'après-midi. Du côté des températures, ça va redescendre, en tout cas le matin, logique avec cette absence de couverture nuageuse. On attend 6 degrés en matinée et jusqu'à 13 pour l'après-midi, mais 15 de ressenti tout de même. Et puis je vous propose aujourd'hui un voyage à travers plusieurs pays d'Europe, puisqu'on célèbre actuellement la 6e édition des Journées Européennes des Métiers d'Art. Futur et transmission, c'est le thème qui rassemblera cette année les professionnels des métiers d'art européens. Au cours de ces journées, les curieux sont amenés à découvrir les métiers de l'art, professionnels, écoles, artistes, artisans, œuvres, ouvrent les portes de leurs ateliers pour l'occasion.
C'est
oui, c'est vrai. Et de nombreux pays y participent. À Vienne, des ateliers d'initiation aux techniques de dorure sont organisés au musée du théâtre. En Lituanie, des visites gratuites sont proposées au musée des arts appliqués et du design de Vilnius. Et ensuite, en Suisse, c'est le Grand Théâtre de Genève qui ouvre exceptionnellement ses portes au public. Mais de nombreuses initiatives sont aussi proposées à Florence, Berlin, Liège ou encore Kilkenny. Et bien sûr, de nombreuses régions françaises suivent le mouvement. Alors les Journées Européennes des Métiers d'Art se dérouleront cette année du 3 au 8 mars.
Et à 17h53, c'est notre revue de presse que nous ouvrons. La presse européenne est en émoi après la mort de 18 manifestants palestiniens et les menaces répétées de l'État israélien, Marion.
Oui, le ministre de la Défense israélien, plus exactement Avigdor Lieberman, a menacé de mort tout palestinien de la bande de Gaza qui s'approcherait de la frontière. Alors revenons au début. Vendredi 31 mars s'est tenue une grande manifestation à la frontière de la bande de Gaza au nord-est d'Israël. 18 Palestiniens ont été tués par balles et des centaines de blessés ont été faits par l'armée israélienne. Il faut le savoir, cette manifestation était une étape dans la marche du retour. Une protestation de 6 semaines organisée cette année pour demander le retour justement de 700 000 Palestiniens chassés d'Israël au moment de sa création en 1948. 1948-2018, la marche du retour est en fait le pendant palestinien du 70e anniversaire de l'État hébreu qui sera fêté cette année à Jérusalem le 14 mai.
Un petit peu plus d'un mois d'une célébration donc explosive, la tension, elle est déjà, on peut le dire, très forte dans la région.
Oui, et toute la communauté internationale tente de calmer le jeu. Toutes non. Les États-Unis, je vous le rappelle, ont annoncé le 6 décembre dernier que l'ambassade américaine allait être transférée de Tel Aviv à Jérusalem le jour même de l'anniversaire de la création d'Israël, le 14 mai 2018. Donc, après la manifestation meurtrière de vendredi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et la représentante de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, ont réclamé une enquête indépendante sur l'usage par Israël de balles réelles. Une demande rejetée, nous dit le quotidien libanais L'Orient le Jour. Les États-Unis, poursuit-il, ont en revanche bloqué samedi soir un projet de déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU, un projet qui appelait toutes les parties à la retenue et à prévenir toute escalade supplémentaire.
Les États-Unis qui prennent ici le risque, au fond, de mettre le feu aux poudres. Hein.
Et d'autant plus que le pays n'est pas le seul à vouloir tirer son épingle du jeu. Le risque principal pour le quotidien chypriote Fele Left Hero, c'est que le conflit n'agglomère trop d'acteurs. Le journal craignant notamment l'implication revendications du Hezbollah chiite. Face à la rivalité entre Tel Aviv et Téhéran, la capitale de l'Iran chiite, la menace du Hezbollah, qui agit au Liban mais est soutenue par l'Iran, a une importance cruciale. L'Iran ne cache pas son intention d'être plus présent dans la région. La situation peut facilement dérailler. Au Proche-Orient, une étincelle peut facilement déclencher un incendie, conclut Philelleft Hero. Israël a bien sûr le droit de défendre ses frontières, tempère quant à lui le quotidien néerlandais NRC Handelsblad, mais Israël a également l'obligation d'autoriser des contestations pacifiques. Tirer sur des manifestants qui ne présentent pas une menace réelle est un acte inacceptable et contre-productif. Seule une certaine retenue dans les deux camps permettra d'éviter la catastrophe, conclut le journal des Pays-Bas.
Et l'Europe dans tout ça ?
Alors l'Europe, elle observe, elle commente, elle cherche une solution diplomatique, mais elle ne doit pas se décourager, c'est ce que clame le Financial Times britannique. Vu la situation explosive, dit-il, l'ONU et l'Union européenne, malgré les objections de Washington, doivent continuer à solliciter la tenue d'une enquête indépendante sur les décès survenus lors des manifestations de vendredi dernier. C'est le seul moyen de faire toute la lumière dans une région où tous les protagonistes utilisent des rumeurs à des fins de propagande pour le quotidien britannique. Israël, de son côté, serait bien avisé de rester en retrait, poursuit-il, en dépit d'une médiation internationale crédible. Tous les ingrédients sont réunis pour une résurgence du conflit entre Israël et les Palestiniens. Personne ne profiterait de cette situation et surtout pas Israël. Pourtant, après les manifestations de la marche du retour, à la veille du 70e anniversaire de l'État d'Israël, avant le transfert de l'ambassade américaine en Israël et le début du Ramadan, rien n'est moins sûr que la détente dans la région.
Merci beaucoup Marion Gauthier. 17h57, dans un petit peu moins de 3 minutes, il sera 18h. Et juste avant, voici le récap en compagnie de Flora Vidal. Flora, vous avez tout écouté ou presque de cette émission, vous nous en livrez la synthèse.
À la une de l'actualité locale, les grèves qui continuent de paralyser la région. Le problème a touché toute la France. Invité ce matin de Radio Nantes, Laurent Eisenmann, secrétaire général de la commission et affaires publiques à la SNCF Mobilité 44, expliquait l'importance de la commission, de la communication et des moyens alternatifs de déplacement. Il faut privilégier le télétravail. Le Premier ministre Édouard Philippe rappelait quant à lui le droit des grévistes mais aussi celui des usagers. Du côté des États membres, la Belgique s'apprête à quitter le nucléaire d'ici 2025. D'ici là, 7 réacteurs cesseront leur activité et pendant ce temps, la Pologne, elle, souhaite faire l'inverse et entrer dans la danse du nucléaire. Celle-ci s'apprête en effet à construire son premier réacteur. Il devrait être opérationnel d'ici 2030. Enfin, une plainte a été déposée contre le service de fact-checking de l'Union européenne qui se retrouve accusé de vouloir contrôler les contenus médiatiques. Depuis la crise des fake news, l'Union européenne s'attache pourtant bien à repousser au maximum les limites de la transparence, mais les mesures contraignantes prises par les institutions européennes entravent, selon certains, le droit à la liberté d'expression. Et puis Marion recevait ce soir Marie Soledad Rodriguez, intervenante dans le cadre du Festival du cinéma espagnol. Elles évoquaient ensemble la question du féminin.
Les femmes cinéastes, en fait, souffrent d'un manque de visibilité dans le cinéma espagnol et il semble important de parler justement et de leurs œuvres et de cette problématique.
Et enfin, Stéphane Maté nous présentait ce soir un titre du groupe Black Olsen. Soundgarden a été repris par le groupe français Zebra.
C'était notre récap de cette fin de première heure. Merci beaucoup Flora Vidal. On marque une petite pause, on se retrouve dans un peu moins de une minute. À tout de suite.
Euradio Nantes présente la 28e édition du Festival du cinéma espagnol de Nantes. Au programme, 70 films inédits en version originale sous-titrée, des invités de marque et des expositions exceptionnelles. Cette année, le festival vous donne rendez-vous pour un cycle rire et délire. Avec un hommage à la réalisatrice Isabelle Coixet, une découverte des métiers du cinéma et un concert inédit de Kali le 30 mars au Théâtre Gralin.
Je crois que je ne t'aime plus, elle m'a dit ça hier.
Du 28 mars au 8 avril, le rendez-vous majeur du cinéma espagnol en France est de retour à Nantes. Retrouvez toute l'actualité du festival sur l'antenne de Radio Nantes et gagnez vos places sur notre Facebook ainsi que sur le site euradionantes.eu.
Vous écoutez Euradio Nantes, il est 18h. Euradio Nantes, la diversité européenne au creux de l'oreille.
Sur 101.3.
Bonsoir, bienvenue si vous venez d'arriver sur le 100.3 FM de Radio Nantes. Bienvenue dans cette deuxième heure dont on n'est pas sorti de l'Europe. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h en ce mercredi 4 avril. Et à la une, les conflits sociaux qui s'ancrent dans les esprits. Les services publics sont-ils menacés? Titre La Croix, une grève peut en cacher une autre pour Libération. Alors, cette question partagée notamment par nos confrères de Sud-Ouest, grève à la SNCF, qu'en disent les usagers? Quel retour sur la première journée d'hier? Quelle réaction parmi les membres du gouvernement? Quelle réaction par exemple dans les services de la SNCF pour pouvoir se préparer, tenter d'anticiper le mouvement social? C'est ce que nous expliquera dans quelques minutes Alexandre Debré. Rebonsoir Flora Vidal.
Bonsoir Simon.
Les autres titres de cette édition de 18h Flora.
Dans le reste de l'actualité ce soir, Saint-Nazaire se lance dans un vaste programme de modernisation et entame de nombreux chantiers. Un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences ouvrira ses portes l'an prochain à Nantes. Et puis l'organisation d'un loto national pourrait bientôt permettre de rénover un château en Loire-Atlantique. Du côté de nos voisins européens, nous reviendrons sur l'incident diplomatique entre la France et l'Italie après le contrôle d'un migrant effectué par les douaniers français sur le sol italien, avant d'aller faire un tour du côté de la Belgique qui annonçait sa sortie du nucléaire d'ici 2025. Enfin, au niveau des institutions européennes, Bruxelles intensifie sa lutte envers la contrefaçon. Et puis nous évoquerons ensuite les fake news et la responsabilité de la Commission sur cette question avant de parler dans notre Zoom du Fonds d'urgence de l'Union Européenne pour l'Afrique.
À 18h20, nous recevons Giovanni Buttarelli, le contrôleur européen pour la protection des données. Le rappel des titres sera bien évidemment à 18h30. 18h46, le Amaun en compagnie de Paola Blaschke. Enfin, à 18h50, nous referons le récap de cette deuxième et dernière heure dont on est pas sorti de l'Europe. Florent le disait tout à l'heure, le temps était assez maussade aujourd'hui. Est-ce qu'on peut garder un petit peu d'espoir pour ce soir et demain?
Oui, il fait actuellement 14 degrés et le temps reste très nuageux. Mais pour ce qui est de demain, je vous annoncerai une bonne nouvelle tout à l'heure. On évoquera aussi les journées européennes des métiers d'art qui ont lieu actuellement dans toute l'Europe.
Et on ouvre cette édition du journal avec les journées de mobilisation contre le projet de réforme de la SNCF. Voici d'ailleurs les principales réactions à cette journée. Beaucoup de grévistes qui se sont exprimés, mobilisés, n'est-ce pas Alexandre Debré?
Et oui, hier les grévistes étaient au rendez-vous. Difficile en revanche de s'accorder sur les chiffres. 34% selon la direction de la SNCF, 60% selon le syndicat Sudrail. Avec autant de grévistes, il faut trouver des solutions alternatives. Ce que rappelle Laurent Eisenmann, secrétaire général communication et affaires publiques à la SNCF Mobilité 44.
On fait énormément de communication en amont et c'est ce que l'on a fait depuis la semaine dernière pour inviter l'ensemble des clients et voyageurs à reporter leur voyage lorsque c'est possible, puisqu'on prévoyait des niveaux de service très très bas. Et puis on met en place des solutions alternatives et notamment il y a plusieurs initiatives qui ont été prises. Le covoiturage, le télétravail sont des solutions que l'on essaye de promouvoir le plus possible.
Mais ralentissons du côté de l'hémicycle. Le gouvernement répondait aux députés, parmi eux Édouard Philippe. Le Premier ministre défend les droits constitutionnels des grévistes comme des usagers.
Je respecte les grévistes, car le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti. Aucun d'entre nous ici n'accepterait que ce droit de grève ne soit mis en cause. Mais reconnaissez avec moi, monsieur le député, que si les grévistes doivent être respectés, les millions de Français qui veulent aller à leur travail parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils veulent aller travailler, doivent également être respectés. Et je veux dire, monsieur le député, qu'en la matière, j'entends autant les grévistes, qui parfois le disent avec vigueur, que ceux qui n'acceptent pas cette grève, ou plus exactement que ceux qui veulent aller travailler, qui veulent continuer à vivre, à travailler, à bénéficier de leur liberté constitutionnelle d'aller et venir, ceux-là aussi, monsieur le député, ont le droit à notre respect.
Édouard Philippe est attaqué également sur la décision de réformer du gouvernement. Il tempère, c'est le seul moyen de sortir de l'impasse.
Le statu quo dans lequel nous sommes installés n'est pas tenable. Il a été décidé avant cette majorité que l'ouverture à la concurrence serait un fait pour le monde ferroviaire. C'est la raison pour laquelle, monsieur le député, nous nous sommes engagés dans une réforme. Une réforme dont vous dites qu'elle est à minima et dont on nous dit par ailleurs qu'elle serait une opération de casse sans précédent.
Cette impasse, concerne l'ouverture à la concurrence. Derrière Macron, Bruxelles, l'Union européenne demande cette ouverture depuis la directive 91/440/CEE, en français directive relative au développement du chemin de fer communautaire. Le principe est simple, séparer la gestion de l'infrastructure ferroviaire et de l'exploitation des services de transport. Nombre de grévistes défendent le service public mis en danger par une concurrence étrangère.
En bref, détour à Saint-Nazaire où le port rentre en chantier.
Travaux nécessaires, les sites touchés datent de 1870 et de 1930, rappellent nos confrères de West France. Plus précisément, ce sont les entrées maritimes qui vont être rénovées, l'entrée est et la forme Joubert. La forme Joubert, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui permet l'accès au port des paquebots. 15 millions d'euros de travaux vont être engagés sur 5 ans. D'ici 2020, le pont du Pertuis, mais aussi le pont basculant, devrait être agrandi pour laisser place à de plus grands bateaux. Une fois la rénovation des deux autres accès finie, l'entrée sud sera également rénovée. Le port souhaite maintenir l'accès aux bateaux de deux des trois entrées. Attention, il s'agit bien du port et non des chantiers Ficantieri. Mais alors, sera-t-il impacté? Eh bien, contacté par nos soins, le chantier désormais italien explique la bonne intelligence du port. Les chantiers ne seront aucunement perturbés par ces modifications, ajoute la communication des chantiers.
Un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences va ouvrir ses portes. Ce sera l'an prochain, Flora.
Oui, la mise en place de ce centre de consultation post-traumatique devrait répondre à un réel besoin, puisque selon l'agence d'urbanisme de la région nantaise, plus de 24 500 femmes seraient victimes de violences physiques ou sexuelles chaque année dans la métropole. La maire de la ville, Johanna Roland, en avait d'ailleurs fait l'une des priorités de son programme électoral en 2014. Accessible et gratuit à tous, ce centre ouvrira ses portes sur l'île de Nantes, rue François Albert. Les victimes et leurs enfants pourront y être accueillis et orientés en fonction de leurs besoins. Différents acteurs seront donc mobilisés, médecins, psychologues, mais aussi conseillers juridiques. Le but de ce centre est bien de mettre en place une assistance, un accompagnement personnalisé adapté à la situation de chacune des femmes. Encore en discussion, le projet devrait voir le jour l'an prochain. Et en Europe, d'autres initiatives du même type ont déjà vu le jour. Des dizaines d'exemples sont à mentionner, notamment en Allemagne et en Italie. Et l'Union européenne reste très active concernant les questions des violences à l'encontre des femmes. Pour cela, elle agit même au-delà de ses frontières. Dans le cadre de l'action extérieure de l'Union européenne, la mission EUPOL-COPS mène par exemple depuis 2014 une campagne de sensibilisation auprès des populations palestiniennes contre les violences faites aux femmes. L'initiative s'appelle Leave No One Behind et elle réunit une communauté assez importante sur les réseaux sociaux.
On parle patrimoine maintenant. L'Auto National va servir à financer un château de Loire-Atlantique. Rislaine Zébahi.
Effectivement, Stéphane Bern, célèbre animateur télé et radio, à la tête d'une mission pour sauver les vestiges français, vient en aide au château de la Berrière. Cette propriété située sur les territoires de Barbechat à Divat-sur-Loire et appartenant à la famille de Bachet montre de grands signes de fatigue. En effet, l'aile ouest de la propriété est très abîmée, la grange est protégée par une bâche et les vitraux menacent de se briser. Le dossier monté par la famille et l'association est le seul à avoir été retenu en Loire-Atlantique. Le montant du soutien financier accordé dépendra des résultats du loto du patrimoine organisé mi-septembre. La Française des Jeux aspire à récolter jusqu'à 20 millions d'euros. Début septembre, un jeu à gratter va également être mis en place. Presque 120 projets seront choisis pour bénéficier des recettes obtenues.
18h passées, tout juste de 8 minutes. Dans quelques instants, on revient sur un scandale transfrontalier entre l'Italie et la France. Un scandale diplomatique qui prend de l'ampleur. On en parle juste après la pause musicale. Ce sera en compagnie de Flora Vidal. À tout de suite.
Innocent charm, keep you from seeing past your love.
The Brunis qui nous invitait à prendre un petit peu de temps pour nous, 18h10.
Radio Nantes le dit haut et fort, on n'est pas sorti de l'Europe.
Un œil à présent sur l'actualité au sein des 28 pays membres. La France et l'Italie sont au bord de la crise diplomatique, Flora.
Oui, vendredi dernier, 5 agents des douanes françaises descendent d'un TGV Paris-Milan à la gare de Bardonecchia en Italie. Ils suspectent en réalité un passager nigérian de trafic de stupéfiants et souhaitent l'interpeller pour le soumettre à un contrôle. Ils procèdent donc dans un local de la gare italienne pour effectuer une analyse toxicologique. Celle-ci s'avère négative, mais cette intervention fait polémique. D'un côté, les Italiens accusent la France d'avoir violé leur souveraineté. Le ministère italien des Affaires étrangères considère cet acte grave, déconnecté du cadre de collaboration entre États frontaliers. De l'autre, les autorités françaises défendent l'opération des douaniers. Ils auraient agi en toute légalité sous couvert d'un accord de coopération en vigueur entre les deux pays depuis les années 90. Une enquête a été ouverte par le parquet de Turin et Christian Massé, l'ambassadeur de France à Rome, a de son côté été convoqué par le ministère des Affaires étrangères. Il s'agit là d'un véritable incident diplomatique qui vient entacher l'excellente relation existant entre les deux pays. Gérald Darmanin, le ministre français de l'Action et des Comptes Publics, aussi en charge des douanes, s'est dit prêt à se rendre en Italie dans les prochains jours pour s'expliquer auprès des autorités italiennes. Il s'est même excusé hier dans une interview accordée au quotidien italien Il Corriere della Sera, évoquant un malentendu. En attendant sa visite à Rome, l'accord des années 90 a été suspendu. Mais pour les Italiens, cet incident ne passe pas. Ce week-end, la presse italienne s'est d'ailleurs emparée de l'événement. Ce qui s'est passé à Bardonecchia est pour beaucoup d'Italiens révélateur des dysfonctionnements dans la gestion de la crise migratoire. Puis la Belgique s'apprête à quitter le nucléaire en 2025, n'est-ce pas Rislaine?
Oui Flora, le 30 mars, le gouvernement belge a approuvé un nouveau pacte énergétique. L'objectif, éliminer progressivement l'énergie nucléaire d'ici 2025, car dans le classement des pays qui utilisent le plus le nucléaire dans leur production d'énergie, la Belgique est quatrième derrière la France, la Slovaquie et l'Ukraine. 40% de l'énergie belge provient en effet du nucléaire. Le pacte énergétique met fin à l'activité des centrales de Doel et de Tihange. Il entraîne aussi la fermeture des 7 réacteurs du pays. L'occasion pour les Belges d'investir davantage dans le développement des énergies renouvelables. Le nouveau plan d'urgence nucléaire du pays prévoit une distribution d'iode dans un rayon de 100 km autour des centrales nucléaires. Cette annonce n'a pas encore provoqué de réaction dans le pays. Néanmoins, c'est plutôt normal puisque les ministres ne voteront ces décisions que fin mai. Enfin, si la Belgique tente de quitter l'énergie nucléaire, la Pologne souhaite faire l'inverse et s'apprête à construire son premier réacteur. Mais ce projet demande du temps et de l'argent. C'est pourquoi la première centrale devrait être inaugurée d'ici 2030.
En bref, on vous en parlait le mois dernier, nos horloges de micro-ondes et fours retardaient de plus de 6 minutes, n'est-ce pas Alexandre?
La faute au Kosovo, ils utilisaient les fréquences hertziennes pour mener des négociations face à la Serbie, l'ENTSOE, organisme fédérant les gestionnaires de réseaux électriques européens. Le conflit est enfin réglé, vous pouvez donc remettre vos horloges à l'heure. Suzanne Niels, porte-parole de l'ENTSOE, encore une fois, espère une solution à plus long terme, à savoir une coopération harmonieuse entre la Serbie et le Kosovo, pour sa part toujours en négociation. Affaire à suivre pour remettre les pendules à l'heure.
On apprend aujourd'hui que l'Union européenne signait des contrats de protection de ses propriétés intellectuelles et industrielles.
Oui, et par là, il faut entendre les brevets, les marques, les dessins et les modèles qui sont des objets d'imitation. Et il n'y a pas que le luxe qui est concerné. Des jouets, des produits alimentaires, même des médicaments contrefaits circulent en Europe. Chaque année, l'Union européenne perdrait ainsi 90 milliards d'euros et 800 000 emplois. C'est dans ce contexte que la Commission renforce aujourd'hui les droits européens de propriété intellectuelle et industrielle. Elle a annoncé un projet d'accord avec l'ANAS, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, la région qui est un haut lieu de contrefaçon avec la Chine et l'Amérique du Sud. Pour Guylaine Kiesen-Locosker, présidente de la CNCPI, la Compagnie Nationale Française des Conseils en Propriété Industrielle, il faut instaurer une culture des droits de propriété.
C'est une coopération, si vous voulez, internationale. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le... qu'il ne faut pas pour autant oublier, mais on n'est plus dans le répressif. On va être dans l'éducatif. On va essayer de faire comprendre à ces pays qu'ils ont tout intérêt à respecter la propriété intellectuelle. Parce que de toute façon, le fait de copier procure moins de richesses que le fait de créer, d'innover et ensuite de pouvoir commercialiser ces innovations et ces créations.
Et pour Guylaine Lecosquer, l'économie de la contrefaçon condamne les États concernés à rester des suiveurs. La solution se trouverait dans l'éducation, dans la formation d'offices de la propriété intellectuelle. L'objectif à terme, harmoniser les procédures d'obtention et de défense de ce droit.
L'Union européenne accusée de bafouer la liberté d'expression, Flora.
Dans le viseur, le service de fact-checking, ce service créé en 2017 sur décision du Conseil européen qui a pour mission de vérifier l'exactitude des faits et empêcher la désinformation des Européens. Un organisme a porté plainte contre ce même service le 28 mars dernier. Il s'agit de la Clinique juridique sur l'Union européenne, un organisme formé d'un partenariat entre HEC Paris et la New York University School of Law. Cet organisme dénonce l'ingérence de l'Union européenne dans sa volonté de contrôler des contenus médiatiques. Alberto Alemano, professeur de droit et fiscalité à HEC Paris, alerté par la mise en cause de certains journalistes par les experts du service de vérification des faits, estime en effet que l'Union bafoue la liberté d'expression et le droit à une procédure régulière, même si son action part d'une bonne intention. En contrôlant le travail des journalistes, ce service nuirait, selon lui, à l'exercice de cette profession, pourtant au cœur de la démocratie. Cette question reste pourtant très sensible au sein des institutions européennes, qui s'attache pourtant à repousser au maximum les limites de la transparence. À l'issue de la première réunion du groupe d'experts sur les fake news qui se tenait en début d'année, Maria Gabriel, commissaire européenne pour l'économie et la société numérique, rappelait pourtant l'enjeu de la désinformation. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
Même si elles ne sont ni illégales ni nouvelles, les fausses informations se propagent aujourd'hui à un rythme inquiétant. Elles menacent la réputation des médias et le bien-être de nos démocraties. Elles menacent nos valeurs démocratiques. C'est pourquoi nous devons élaborer des mécanismes permettant d'identifier les fausses informations et de limiter leur circulation. Nous devons favoriser la transparence, la diversité, la crédibilité des sources d'informations. Personne n'a l'intention de contraindre les citoyens à croire ou à ne pas croire à une information particulière. Cependant, si nous ne prenons aucune mesure contre les fausses nouvelles au niveau européen, le risque est grand que la situation s'envenime.
Des mesures qui consistent justement à favoriser la traçabilité de l'information et la transparence des médias. Une chose est sûre, cette plainte relance une nouvelle fois la Commission sur sa capacité à protéger les citoyens européens, tout en adoptant des mesures contraignantes pour faire face aux fake news. Et puis aujourd'hui dans notre Zoom, le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique nous est présenté par Paola Blaschke.
Exactement, Flora, ce fonds créé en 2015 soutient la stabilité et la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière en Afrique, une initiative qui propage des grandes ambitions pendant la conférence de presse lors le sommet de haut niveau à La Valette en novembre 2015. Joseph Muscat, Premier ministre maltais, annonçait.
This is a first step to establish a wider, wide-ranging cooperation between Europe and Africa. I'm one of those who believe that we should not look just at the issue of migration on its own, but rather look also at the huge potential that Africa has. And I think that now the action plan shows, maybe for the first time, the commitment of Europe to see the relationship flourish.
Selon l'association Coordination Sud, la situation réelle est différente. Ils prétendent qu'il s'agit d'une gouvernance pilotée depuis Bruxelles sans réelle transparence et que la coopération proposée par l'Union européenne ne semble pas aller dans le sens d'un partenariat équilibré, mais bien d'une emprise tentant de s'imposer aux États africains un à un. Le choix des projets ne serait pas transparent. En plus, il y aurait un détournement de l'aide publique au développement et l'auteur de critiquer, mobiliser l'aide au développement dans le cadre d'un fonds qui vise notamment à gouverner l'émigration a des conséquences extrêmement négatives sur le respect du mandat de cette aide. Le FFU n'est pas seulement contraire aux engagements en matière d'efficacité de l'aide, mais surtout inefficace dans les objectifs qui se fixent en matière de gestion des migrations. La coordination sud démonte une réécriture de ce fonds.
18h passées de 20 minutes, dans quelques instants, nous recevons le contrôleur européen pour la protection des données. A tout de suite.
Radio Nantes présente Accent d'Europe. Le magazine qui envisage l'Europe sous tous les aspects du prisme quotidien de la vie de ses citoyens. Réalisé avec les contributions des correspondants de RFI, de la RTBF et de la RTS. Retrouvez Accent d'Europe à 8h, du lundi au vendredi et le samedi à 9h sur le 101.3 FM et en podcast sur le site euradionantes.eu. Euradio Nantes le dit haut et fort, on n'est pas sorti de l'Europe.
Euradio, l'invité européen.
European guest.
European guest.
Hello, Giovanni Butterly.
Hi.
You're the European Data Protection Supervisor. Thus, yes, you advise European institutions on the General Data Protection Regulation. This text has been approved in 2016 and it is to come into effect on the 25th of May this year. All European companies have to be GDPR compliant from now until this date. What does it mean concretely?
Well, we improve in terms of harmonization of fragmented rules in each member state 20 years after the introduction of the first directive in 1995. Second, we modernize these rules because of the big data, artificial intelligence and Internet of Things words. We give data subjects much more dynamic rights. We allow them to better understand what happens about their data, to keep them under control of the processing of personal information. And we allow data protection authorities to better exercise their key role to independently monitor fairness and lawfulness. So we treat data controllers as adults. We ask them to go beyond mere formalities. We debureaucratize a little bit. We concentrate on effective safeguards. So it's a mix of continuity in between existing principles and new leading principles we are introducing, such as privacy by design and privacy by default. So it's an interesting Copernican revolution.
Which means have the EU to enforce this general data protection regulation?
We counted that all data protection authorities in EU are getting an increase of an average of 24% of their human resources, and therefore, consequently, this will also have an impact on their increased budget and powers and means and duties. Their independence is strengthened. So enforcement will be subject to severe administrative fines in addition to criminal sanctions. And fines will be up to 4% of the worldwide annual turnover of the affected company. So if you think about the recent Facebook versus Cambridge Analytica case and you consider the worldwide annual turnover of Facebook, count the 4% and therefore understand what the maximum sanction could be in cases like that.
Just to recall, the millions of users' data have been used by the firm Cambridge Analytica for Donald Trump's electoral campaign, Facebook data. Some suspicions of influence of Brexit also exist. How can the European Union impose its regulations on giants as Facebook?
Well, that's the challenge and the good news, because today it's a little bit difficult to do it because you have to demonstrate that the company is established in the EU or using means in the EU. As from the 25th of May, we don't care about where the company is, where they have their servers, headquarters. We take care of the place where the services are offered in practice. So we treat a company in Paris as a company in Vermont or Ohio or Mississippi. So the situation will not change. We see where people is profiled in practice or where the goods and services are offered in practice.
You just talked about independence. Some companies fear the new regulation becomes a weapon, a way for employees of exerting pressure on the firm. What do you answer to this fear?
But I think that this regulation will be a driver for new professions, new opportunities, we can bridge the gap. We suffer from a technological viewpoint. So if we will allow all these companies to invest more energies in engineering, securing data, using the SEALs, accreditation, certifications, consultancy, data protection officers, codes of conduct, and privacy by design and privacy by default principles, we can see that there are a lot of job opportunities for young engineers. So we currently serve the tech giants by sending people in the valleys. Now it's time we create a European Union privacy and security culture.
The one of the key ideas of the new regulation is information. European citizens should be, with the GDPR, more aware of the utilization of their personal data. Is it enough just to inform?
No, and we keep the principle of choice where the choice is essential. And choice should be much more than before, than today, freely given and genuine and could be revocable. And informing people may allow them to be better in control of the data. And therefore, for now on, data controllers should use a plain communicative language, a short one, no legalese, so dynamic tools, so that in one shot I understand what they're doing about my data. Today, if I connect with a website, I say I accept, I understand, I agree, but actually I don't see anything about what they're doing about my data. The situation should change soon.
Thank you, Giovanni Buttarelli, for answering our questions.
My pleasure.
Try, but she asked me to lean on her shoulder tonight. No, the city don't sleep, now neither do I. 'Cause I'd rather not tell you what I did through the night. I cannot control myself. It's good for fun, bad for health. That I hear, didn't think you would lie, but I think that you did. I was trying not to see it, but it wasn't even here. You cannot control yourself. It's weighing heavy on my health, but I need to accept that it's complicated. I'm sorry for the
Prélo, à l'instant sur le 100.3 FM de Radio Nantes. 18h passées de 30 minutes, voici le rappel des titres. Le mouvement s'annonce dur, nous tiendrons le temps qu'il faudra sur Éric Meyer, le porte-parole de Sudrail, comme l'avait anticipé la SNCF. Le trafic a été très perturbé hier et aujourd'hui, premier et deuxième jour d'une grève au long cours des cheminots. Ces derniers contestent la réforme du rail du gouvernement et entament une grève tournante avec 2 jours de mobilisation sur 5, étalée sur 3 mois. 4 œuvres d'art ont disparu de l'Assemblée nationale, annoncé la présidence de l'Assemblée, confirmant une information du canard enchaîné. Les œuvres étaient accrochées au mur dans des bureaux, précise la présidence de l'Assemblée. Les recherches menées jusqu'à présent pour les localiser n'ont pas permis de les retrouver. Il s'agit d'une œuvre de Takis qui appartient au Fonds National d'Art Contemporain, d'un tableau d'Hervé Télémac, un autre de Richard Texier, enfin une gravure d'un auteur qui n'était jusque-là pas encore connu. La Ligue des Femmes du Congrès National Africain, l'organisation féministe de l'ANC, a organisé une manifestation publique dans les rues d'hier. La mémoire de Winnie Mandela, figure avec son ancienne mari Nelson Mandela de la longue lutte de la majorité noire contre la ségrégation raciale. Winnie Mandela qui est décédée, c'était ce lundi à l'âge de 81 ans à Johannesburg, un deuil national de 10 ans a été décrété. Et enfin on termine avec cette déclaration, ça y est, enfin on en est sûr, l'homme de Néandertal avait bel et bien un gros nez. Depuis longtemps sa morphologie faisait débat chez les scientifiques. Une équipe internationale de chercheurs utilisait des modèles 3D de crâne de Néandertaliens, d'Homo sapiens et de leurs ancêtres connus. Résultat, un nez saillant, des larges sinus pour pouvoir humidifier l'air froid et sec qu'il devait pouvoir respirer en grande quantité. Voilà un petit peu pour ce que nous livrait l'information aujourd'hui à travers le monde. Et justement, après avoir regardé un petit peu l'information dans le monde entier, nous allons à présent nous intéresser à l'information avec notre chronique européenne.
La chronique européenne.
Si vous êtes abonné à une plateforme numérique, vous pouvez désormais profiter de votre abonnement dans les autres pays européens, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est entré en vigueur dimanche dernier et une personne qui a payé un abonnement pour des contenus numériques dispose de ce que l'on appelle la portabilité. Si l'abonné voyage à travers l'Union européenne ou s'il prend des vacances dans le pays voisin, le temps du séjour, il peut écouter de la musique, suivre un match, télécharger des livres électroniques ou des jeux, exactement comme il le fait chez lui. C'est valable pour les services payants, vendus par MyCanal, Deezer, Netflix, Spotify, toutes les plateformes qui proposent des programmes contre abonnement numérique. Mais les fournisseurs de contenus gratuits peuvent aussi appliquer cette règle. Depuis juin 2017, il n'y a plus de frais lorsqu'on utilise son téléphone portable d'un pays à l'autre. Après un accord conclu avec les opérateurs européens, les frais d'itinérance ont été peu à peu supprimés. Eh bien, on fait maintenant la même chose avec les abonnements numériques. Tout cela répond à un projet lancé en 2015 de marché unique numérique. L'objectif est de rassembler les 28 marchés nationaux qui sont actuellement cloisonnés. C'est un véritable chantier. Il concerne le commerce en ligne, la régulation des plateformes Internet et l'harmonisation des droits d'auteur sur les œuvres audiovisuelles, ce qui va prendre du temps. Combien de personnes profitent actuellement de la portabilité? Eh bien, selon les calculs de la Commission européenne, 29 millions de personnes abonnées à des contenus numériques peuvent déjà l'utiliser, soit environ 6% des consommateurs européens. Mais ce chiffre pourrait atteindre 72 millions de personnes d'ici à 2020, dans moins de 2 ans.
Voilà donc pour la chronique européenne et pour le trafic. C'est du côté de Rislaine Sebeil que nous allons aller. Rislaine, vous surveillez comme le lait sur le feu nos conditions de circulation ce 4 avril. Qu'est-ce qu'il en est à 18h34?
Alors actuellement, le trafic est très fluide sur le périphérique nantais. Quelques embouteillages tout de même près de la porte d'Orvault sur la A844. Des bouchons également à côté de la porte de la Chapelle. Et on nous a signalé aussi qu'un accident a eu lieu sur la E3 à côté de la porte d'Armor. Attention donc au ralentissement. Voilà pour le point trafic. Et maintenant, direction la capitale. Une nouvelle attraction vient de voir le jour à Paris. Elle fera le bonheur des touristes et des habitants. Son nom, Flyview Paris. Elle permet
permet de survoler la ville en jetpack. L'avant-première a eu lieu samedi 31 mars. L'attraction est disponible dans une sorte d'aérogare de 1000 mètres carrés. Elle permet de façon virtuelle de survoler les plus beaux monuments parisiens. Alors imaginez-vous dans le hall d'embarquement d'un aéroport. Vous achetez votre billet, vous attendez votre vol. D'ailleurs, il y a même un écran pour pouvoir consulter les prochains départs. Vous avez le droit à des consignes de sécurité. Puis, une fois installé, on vous place un casque de réalité virtuelle sur la tête avec deux écouteurs. Vous bouclez votre ceinture et vous êtes prêt pour le décollage. Pendant que vous êtes assis, vous avez le droit à une vidéo réalisée grâce à un drone qui vous permet de voir ce que la caméra filme au-dessus de Paris, vous faisant passer par la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ou encore la Seine. Et si vous voulez tenter l'expérience, rendez-vous chez Flyview, tout près de l'Opéra Garnier, où pas moins de 50 jetpacks vous attendent.
Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Rislaine. À suivre dans quelques instants, nous allons revenir en compagnie de notre experte du soir. Mais juste avant de nous pencher vers l'experte, nous allons marquer une pause musicale. On se retrouve dans quelques instants, juste après ceci. À tout de suite. Et bien voilà, il est l'heure pour nous pencher à présent vers notre experte du jour en compagnie de Rislaine Sebaïd.
Sophia Fernandez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse sur les questions économiques et sociales à l'Institut Jacques Delors. La Commission européenne a proposé la création d'une autorité européenne du travail en 2019. Il s'agit d'une étape importante dans l'harmonisation du droit du travail en Europe. Mais au fait, Sophia Fernandez, pourquoi créer une autorité européenne du travail ?
Alors avant tout, parce qu'il y a aujourd'hui environ 17 millions de travailleurs mobiles en Europe, c'est-à-dire des travailleurs qui travaillent dans un pays qui n'est pas leur pays d'origine, et ce qui est deux fois plus qu'il y a 10 ans. Cette mobilité intra-européenne des travailleurs est en soi quelque chose de positif, que ce soit pour les citoyens qui sont concernés, pour les entreprises ou pour les États membres. Cela aide notamment à mieux équilibrer l'offre et la demande d'emploi à travers l'UE. sachant que certains pays ont un taux de chômage très élevé et d'autres font face aux travailleurs dans certains secteurs d'activité. Mais malgré cela, la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne pose aujourd'hui certains problèmes dans certains pays européens. Pour faire face à cela, la Commission a revu ses règles relatives à la libre circulation des travailleurs. Je pense notamment à la révision en cours de la directive sur les travailleurs détachés. Son objectif étant de garantir une mobilité équitable au sein du marché unique, c'est-à-dire une mobilité qui ne soit pas source d'une concurrence sociale déloyale. Mais c'est bien beau d'adopter des nouvelles règles, encore faut-il qu'elles soient respectées dans chaque État membre. La Commission a revu ses règles en matière de libre circulation des travailleurs. Je pense notamment à la révision en cours de la directive sur les travailleurs détachés. Mais s'il est utile de revoir les règles européennes, il est encore plus utile de garantir que ces règles sont effectivement mises en œuvre et respectées dans chaque État membre. Et aujourd'hui, on voit que les autorités nationales, notamment les inspections du travail, font face à des difficultés pour éviter des abus et des fraudes qui ont aujourd'hui lieu. Et avec cette autorité européenne du travail, la Commission veut notamment aider les États membres à mieux lutter contre les abus et les fraudes qui peuvent aujourd'hui avoir lieu et donc garantir une mobilité équitable, c'est-à-dire une mobilité qui n'est pas source d'une concurrence sociale déloyale entre les États membres.
Cette idée de créer une agence de contrôle n'est pas nouvelle. En 2013, Michel Barnier, qui était alors responsable du marché unique à la Commission européenne, l'avait déjà évoqué. Pourquoi est-ce que cette idée prend forme aujourd'hui ?
Justement parce qu'en fait, la Commission a depuis l'arrivée de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission, et même d'ailleurs un peu avant, a lancé de nombreuses initiatives pour garantir une mobilité équitable, plusieurs propositions législatives. La dernière en date, le règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale. Mais on se rend compte que ce n'est pas suffisant, qu'il faut vraiment doter l'UE d'un rôle dans le respect des règles européennes pour mieux lutter contre les abus et les fraudes qui aujourd'hui sont négatifs pour l'image de l'UE et de ce marché unique.
Et quelles missions lui seront attribuées ?
Alors la Commission a proposé trois types de missions. Avant tout, la Commission est soucieuse de garantir que cette autorité n'est pas perçue comme une autorité de contrôle. Donc elle veut que sa mission soit plus large. Et donc la première mission qu'elle mentionne est celle de faciliter l'accès à l'information pour les citoyens et les entreprises qui traversent les frontières nationales. Donc par exemple, pour les citoyens, il s'agira de garantir un meilleur accès à leurs droits quand ils travaillent dans un autre pays européen ou garantir un meilleur accès aux offres d'emploi qui existent dans les autres pays. Cette agence sera notamment responsable de gérer le réseau EURESP qui existe aujourd'hui, qui est le réseau européen d'offres d'emploi à travers l'Union européenne. Au-delà de cette mission, la deuxième mission de cette autorité européenne du travail sera celle de renforcer la coopération entre les États membres et leurs inspections nationales pour justement mieux lutter, mieux détecter et lutter contre les abus et les fraudes qui peuvent exister aujourd'hui où on voit des entreprises peu scrupuleuses qui exploitent des travailleurs venus d'autres pays européens. Donc il y a cet objectif du renforcement de la coopération entre autorités nationales et aussi elle aura un rôle de médiation lorsqu'il y a des différends entre les autorités nationales pour essayer de trouver des solutions à ces éventuels conflits.
Merci Sophia Fernandez d'avoir répondu à nos questions.
Voilà pour notre experte du soir. Dans quelques instants, on se retrouve pour entre à ma une et aussi bien évidemment pour le récap de cette deuxième heure à suivre.
On n'est pas sorti de l'Europe. Du lundi au vendredi, de 17h à 19h, Euradio Nantes le dit haut et fort, on n'est pas sorti de l'Europe. En compagnie de Simon Marty et de la rédaction, explorez avec curiosité les sujets qui font l'actualité chez nous et chez nos voisins européens. Focus, revue de presse, interview et pépites européennes, on n'est pas sorti de l'Europe sur Euradio Nantes.
Euradio Nantes le dit haut et fort, on n'est pas sorti de l'Europe.
Vous écoutez le 100.3 de Radio Nantes. Nous nous tournons à présent vers notre âme à une du soir en compagnie de Paola Blaschke. Paola, les gens haussent la voix dans pas mal de pays d'Europe, y compris d'ailleurs en Autriche.
Exactement, Simon. En Autriche, deux initiatives populaires étaient aujourd'hui inaugurées au ministre de l'Intérieur. La radio autrichienne E1 nous en parle dans le Früh Journal.
E1, Früh Journal.
Heute gibt es für zwei der laufenden Volksbegehren einen wichtigen Termin im Innenministerium. Das Frauenvolksbegehren und jenes für ein Rauchverbot in der Gastronomie werden eingeleitet. Also der jeweilige Einleitungsantrag wird dem Innenminister übergeben. Damit beginnen die Fristen für die eigentlichen Volksbegehren zu laufen. Die Mindestanzahl an Unterschriften haben beide Initiativen bei weitem überschritten.
Ah oui, donc Paola, il faut que, oui, forcément, il faut que je vous parle, sinon ça marche pas, si je fais pas la relance. Donc Paola, de quoi est-ce qu'il s'agit? Et, est-ce que vous nous expliquer un petit peu comment une initiative populaire, ça fonctionne?
Oui, alors une initiative populaire est un moyen de la démocratie directe qui permet au peuple d'exiger une proposition de loi du Conseil national. Cette fois, il s'agit d'une initiative populaire des femmes qui s'engagent entre autres en faveur d'un salaire minimum de 1 750 € ou de la création d'une semaine de 30 heures. L'autre initiative, appelée Don't Smoke, lutte pour une interdiction de fumer dans la gastronomie. Pour l'admission d'une initiative populaire, des promoteurs doivent dans un délai d'une semaine présenter au Parlement au moins 1 100 signatures de ceux qui ont le droit de vote. Ce nombre a été fortement obtenu. Environ 580 000 habitants ont donné leur signature en faveur de l'initiative Don't Smoke. Pour l'autre initiative, celle qui lutte pour une égalité entre hommes et femmes, plus que 230 000 signatures ont été collectionnées.
Alors c'est quoi la suite? Comment ça se présente maintenant, Paola?
Alors maintenant, le ministre de l'Intérieur doit vérifier les demandes dans un délai de 3 semaines. Enfin, l'initiative populaire peut commencer au plus tôt 8 semaines après la divulgation et se termine au plus tard 6 mois après.
Alors, depuis longtemps, il y a dans d'autres pays de l'Union Européenne, par exemple en Allemagne ou aussi en France, une interdiction de fumer, notamment pour tout ce qui touche à la gastronomie, qui est bien évidemment mise en place par le législateur. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Paola, ça n'existe pas en Autriche, tout simplement?
Alors là, le point décisif est le nouveau gouvernement qui avait décidé fin 2017 de ne pas instaurer l'interdiction qui était prévue pour mai de cette année. Et selon le règlement actuel, les fumeurs peuvent fumer dans une chambre séparés du reste de la barre ou du restaurant. Pour des adversaires, toujours trop de fumée des cigarettes, mais une initiative populaire n'oblige pas le gouvernement à changer la loi. Des décisions concrètes sur les deux initiatives populaires tombent dans les mois prochains. Affaire à suivre.
L'affaire est à suivre, en effet. Merci beaucoup, Paola Blaschke. 18h52, eh bien, c'est l'heure de notre dernier récap de cette deuxième heure dont on n'est pas sorti de l'Europe. Flora Vidal, encore une fois, vous avez scruté toute l'émission.
Oui, à la une de l'actualité locale ce soir, les grèves qui continuent de paralyser la région. Le problème a touché toute la France. Invité ce matin de Radio Nantes, Laurent Elzenman, secrétaire général de la Commission et Affaires publiques à la SNCF, Mobilité 44, expliquait l'importance de la communication et des moyens alternatifs de déplacement. Selon lui, il faut privilégier le télétravail. Et puis le Premier ministre Édouard Philippe a rappelé quant à lui le droit des grévistes, mais aussi celui des usagers. Du côté des États membres, la Belgique s'apprête à quitter le nucléaire d'ici 2025. 7 réacteurs cesseront donc leur activité d'ici là. Pendant ce temps, la Pologne, elle, souhaite faire l'inverse et entrer dans la danse du nucléaire. Elle s'apprête en effet à construire son premier réacteur qui devrait être opérationnel d'ici 2030. Enfin, une plainte a été déposée contre le service de fact-checking de l'Union européenne qui se retrouve accusé de vouloir contrôler les contenus médiatiques. Depuis la crise des fake news, l'Union européenne s'attache pourtant bien à repousser au maximum les limites de la transparence. Mais les mesures contraignantes prises par les institutions européennes entravent, selon certains, le droit à la liberté d'expression. Et puis Marion recevait ce soir Giovanni Buttarelli, le contrôleur européen pour la protection des données. Ils évoquaient justement ensemble la question des données personnelles à l'heure du tout numérique.
Informing people may allow them to be better in control of the data. And therefore, for now on, data controllers should use a plain communicative language, a short one, no legalese, so dynamic tools, so that in one shot I understand what they're doing about my data. Today, if I connect with a website, I say I accept, I understand, I agree, but actually I don't see anything about what they are doing about my data. The situation should change soon.
Et enfin, Ryslaine Sebaï recevait notre experte du jour, Sophia Fernandez, chercheuse sur les questions économiques et sociales à l'Institut Jacques Delors. Elle parlait ensemble du rôle de l'Autorité européenne du travail.
Merci beaucoup, Flora, pour nous avoir un petit peu fait cette synthèse. Eh bien, il est l'heure pour nous de nous quitter. Dans moins de 6 minutes, vous retrouvez vos programmes mensuels et puis l'ensemble des programmes musicaux de la station, d'ailleurs, dont les rendez-vous qui vont venir dans cette soirée. À partir de 20h, c'est La Souterraine que vous retrouvez, 21h, We Want to Rigoler. À partir de 7h, la première partie du Breakfast Show, 9h, Echo of Europe, 10h, la deuxième partie du Breakfast. Je vous souhaite une très belle et douce soirée. Je vous dis à demain. Bye bye.
This is your radio, EU Radio.